J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour la première fois dans cet auditorium du pôle des langues et civilisations. Pour la première fois parce que c'est la première fois que la BULAC, la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, organise un événement de quelque nature qu'il soit, public en tout cas, dans cet auditorium qui est en fonctionnement depuis quelques jours seulement. L'équipement est encore quasiment en rodage, c'est pour ça que je m'autorise à vous demander si tout marche bien et si jamais quelque chose ne fonctionne pas, signalez-nous-le. Je suis donc Marie-Lise Tsagouria, le directeur de la BULAC, et j'ai donc le très grand plaisir, très grand honneur aujourd'hui d'accueillir pour notre première manifestation culturelle dans cet auditorium une soirée du programme Estonie-Tonique qui est donc ce soir consacrée à une rencontre littéraire avec des écrivains estoniens, sauf qu'il nous en manque un et c'est pour ça qu'on vous faisait un peu patienter. On espère qu'il va pouvoir nous rejoindre d'ici à la suite de la soirée et donc malgré tout, on ne l'attend pas, on va commencer. Voilà, donc juste un ou deux mots pour vous dire que la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, qui est un des deux établissements qui occupe ce beau bâtiment tout neuf qui vient d'être livré, que nous occupons depuis la fin du mois de septembre, les premiers jours d'octobre, la bibliothèque est encore fermée au public, donc c'est vraiment un événement en avant-première, on va dire, de sa vie dans ce bâtiment. Elle ouvre le 12 décembre au public, à tous les publics, des publics étudiants, des publics enseignants, des publics chercheurs, du grand public. Tout le monde peut s'inscrire et venir à la BULAC, sauf les trop petits enfants. On ne prend les enfants qu'à partir du baccalauréat de 18 ans ou alors des enfants qui apprendraient au lycée des langues orientales, des langues qui sont dans nos domaines de compétences. Ceux-là pourraient même s'inscrire à la BULAC. Donc, dans très peu d'années, ce sera bon. La BULAC, donc, c'est une bibliothèque qui a hérité, entre autres, de la prestigieuse Bibliothèque des langues orientales. Nous avons 1,5 million de volumes là, qui nous attendent dans ces salles et dans ces réserves. Et parmi ce million et demi de volumes, un nombre significatif, quoique certainement encore insuffisant, en estonien, sur l'Estonie, puisque l'Estonie est un des pays dont nous visons à couvrir la civilisation, la langue, l'histoire, et tout cela, bien sûr, en accompagnement des enseignements d'estonien qui se font à l'INALCO, juste dans les étages supérieurs. Voilà, donc je n'en dis pas plus, c'était juste un tout petit mot de bienvenue, et je passe la parole à l'animateur de la soirée, Monsieur Carayol. Je voulais juste remercier, mais vous allez le refaire bien sûr, l'ambassade d'Estonie et l'Institut français avec lesquels nous avons collaboré depuis des mois pour organiser cette séance ce soir et avec lesquels nous avons eu des sueurs froides pendant tous ces mois parce que nous ne savions pas si cet auditorium serait effectivement techniquement prêt pour accueillir cette soirée. Aujourd'hui, il l'est à peu près, donc vraiment, nous en sommes tous très heureux. Et merci à tous de la patience et des incertitudes que vous avez bien voulu assumer avec nous pendant toute cette période. Je crois que vous n'avez pas besoin de ce micro, je le garde pour le faire circuler dans la salle tout à l'heure. Très bien. Merci.
Alors, en fait, avant de passer la parole à Martin Carayol pour la table ronde qui est prévue ce soir, je voudrais m'insérer dans le programme pour vous présenter cet ouvrage, qui est une anthologie de la prose estonienne contemporaine, qui rassemble des textes de 13 auteurs, donc on a des extraits de romans et des nouvelles. Le livre s'appelle « Labyrinthe du réel » et est publié par Babel Actes Sud. Et c'est un petit peu, la parution de cet ouvrage est un peu le prétexte de notre rencontre de ce soir. L'un des objectifs est de vous présenter ce livre et quelques-uns des auteurs dont des textes figurent dans cet ouvrage. Et ce livre, en fait, couvre un champ littéraire beaucoup plus vaste que celui qui va nous occuper ce soir, puisque les textes qui sont rassemblés tournent autour de quatre thématiques que j'ai résumées par les mots suivants, la mémoire, l'intime, le réel et l'irréel. Et ce soir, nous allons nous occuper plutôt de la dernière partie, à savoir l'irréel, ou peut-être à la rigueur le réel, une certaine forme de réel, puisque nous nous intéresserons aux littératures dites de l'imaginaire. Donc Martin Carayol précisera sans doute ce que recouvre ce terme en Estonie, puisqu'en Estonie on a un mot très court pour désigner tout ça, un mot de 3 lettres. Et voilà, donc vous trouverez ce livre à l'extérieur de l'auditorium, vous pourrez l'acheter si vous souhaitez. Et je laisse maintenant la parole à Martin pour la table ronde sur les littératures de l'imaginaire.
Alors, il faut commencer par s'entendre sur ce qu'on entend par les littératures de l'imaginaire. Et comme l'a dit Antoine Chalvin, il y a en estonien un mot qui me semble correspondre très précisément à ce qu'on peut mettre dans cet ensemble. Puisqu'il y a ce terme de « ulme » en estonien qui va contenir en fait tous les sous-genres que nous on peut mettre en français dans cette expression de littérature de l'imaginaire. Donc il y a la science-fiction avec ses diverses subdivisions, le merveilleux, dans lequel on inclut la fantasy, et également le fantastique, et alors là, tous les sous-genres, une nouvelle fois, du fantastique, un fantastique traditionnel à la Maupassant, ou à la Montag James, un fantastique plus métaphysique à la Borges, et également un fantastique horrifique à la Stephen King, à l'américaine, disons. Tous ces grands genres et ces subdivisions sont contenus dans le terme d'ulme en estonien, et même si le terme de littérature de l'imaginaire en français n'est pas très utilisé, disons, dans le grand public, il me semble qu'il permet d'englober les mêmes sous-genres. Alors ensuite, j'aimerais présenter les trois écrivains qui vont intervenir ce soir avec nous. Je vais évoquer d'abord Indrek Hargla, qui est là. Lui, justement, a fréquenté tous les domaines de l'ulme, des littératures de l'imaginaire, dans des nouvelles très nombreuses et plusieurs romans, avec un intérêt particulier pour plusieurs de ces sous-genres, et notamment l'Uchronie, par exemple avec une nouvelle qui s'appelle « La nécropole de la Sierra Titaona », qui mêle la mythologie chrétienne à l'histoire de la conquête du Nouveau Monde. Ça, c'est une nouvelle que vous pouvez trouver sur Internet. Je vais essayer de mentionner en priorité celles qui sont accessibles en français. Il y a également son cycle très célèbre en Estonie de « French et Koulou », qui est dans le cadre de l'Uchronie. Il a traité également le fantastique horrifique avec, par exemple, la nouvelle « Vaendru », où il est question de loups-garous et de sorcières dans un coin perdu d'Estonie. Mais tout cela sans négliger un fantastique plus feutré, qui est justement celui du texte que l'on trouve dans l'anthologie « Le spectre des blés », que nous vous lirons tout à l'heure en intégralité. Et il a également, par exemple, touché au merveilleux avec un roman qui est ressorti précisément ce qu'on appelle en anglais la Sword and Sorcery, donc des histoires à la Fritz Leiber, Michael Moorcock. Ce roman s'appelle La limite maximale de la liberté. Et récemment, il a élargi sa palette avec un autre genre qu'on appelle en français un genre populaire, qui est celui du polar historique. J'aimerais donc tout de suite lui demander s'il a une préférence parmi ses ouvrages, peut-être un autre livre que je n'ai pas encore mentionné, et sur lequel il tiendrait à insister, quelque chose qui mériterait selon lui d'être traduit, par exemple.
Bonsoir. Il me semble que ces derniers temps, ce que j'ai écrit, les romans de Melchior, sont sans doute les plus accessibles dans tous les autres livres, mais il y a des éléments réels. Mais l'univers qui est créé là a cru sur un terreau historique réel, et c'est pour cela que je pense que c'est le plus international. Mais j'ai écrit également beaucoup de textes de fantasy qui sont connectés à l'histoire européenne et à l'histoire française, d'histoire alternative. Et dans ces histoires, elle s'adresse à un public assez limité. Ce que je préfère dans ce que j'ai écrit, c'est peut-être mon dernier recueil, dont le titre c'est « Les vampires qui s'embrassent », qui représente tous les sous-genres de la littérature de l'imaginaire, que ce soit la fantasy, l'horrifique ou la science-fiction. Et peut-être aussi la troisième partie de French et Koulou, où il voyage à travers l'Europe.
Alors, même si pour l'instant il n'est pas arrivé, je vais également présenter Mehis Heinsar, qui, lui, est l'auteur de 2 romans et 3 recueils de nouvelles jusqu'ici, et qui pratique principalement un fantastique assez discret, par petites touches, où l'élément surnaturel n'est pas forcément primordial. Et voisine à l'occasion avec un humour touchant à l'absurde, comme dans l'histoire d'Oliver Helves, que vous trouverez dans le recueil, où une nouvelle où 2 écrivains se disputent les faveurs d'une muse peu conventionnelle, vous verrez tout à l'heure ce dont il s'agit. Et parfois, un fantastique qui touche à la poésie, par exemple avec L'homme papillon, également accessible en français, où un magicien de cirque sécrète involontairement des nuées de papillons, des types les plus divers, et finit par disparaître dans une nuée de papillons qui sortent de son corps. Certaines de ces nouvelles se placent dans une Estonie rurale, c'est le cas de Aspendal, le faiseur de pluie, qui évoque la figure d'un géant érotomane doué d'étranges pouvoirs. Et également, c'est le cas également du bel Armin, qui parle d'un jeune homme à la beauté surnaturelle qui va finir par rendre fou tout un village, littéralement tombé amoureux de lui. Alors, à notre table ronde ce soir, nous avons également Georges-Olivier Chateau-Renaud, donc un écrivain français. Pour présenter brièvement son œuvre, on peut dire qu'elle est également très diverse, notamment par les milieux évoqués, parfois une France rurale, comme au début des Messagers, qui sont son premier roman, ou dans la nouvelle Le Jardin dans l'île, ou dans La Belle Charbonnière, que je cite d'ailleurs parce qu'il relève du merveilleux, qui n'est pas forcément le genre des littératures de l'imaginaire que M. Chateau-Renaud a le plus traité, mais il y a quelques textes, comme celui-ci précisément. Parfois des paysages de banlieue, même c'est assez fréquent en réalité dans son œuvre, et des villes, alors des villes devenues très importantes ces derniers temps dans l'œuvre de Georges-Olivier Chateau-Renaud, avec Paris dans Mathieu Chain, mais surtout plus récemment, les villes d'Éparvet et Écorcheville, des villes fictives qui se trouvent en bordure du Styx, et qui, en tout cas Écorcheville notamment, est au cœur d'un de ses romans les plus récents, L'Autre Rive. C'est une œuvre avec de nombreux échos, des personnages récurrents qui en font une œuvre très cohérente également. Dans son dernier recueil de 3 nouvelles, on retrouve une figure assez fréquente dans son œuvre, qui est la figure de l'écrivain. Ce dernier recueil donc s'appelle Résidence dernière, et il évoque le thème des résidences d'écrivains, avec notamment une nouvelle qui s'intitule « Les miroirs ferment mal », où un jeune écrivain, invité dans une somptueuse demeure, est rejoint chaque nuit par une femme très belle qui vit de l'autre côté d'un miroir. Alors je vois que justement notre second auteur estonien vient d'arriver. C'est parfait. Mais on va entrer dans le vif du sujet en évoquant le premier des 4 grands thèmes que nous voulions traiter ce soir. Ce premier grand thème est la perception des genres de l'imaginaire en France et en Estonie. Je vois que vous avez un exemplier où ces thèmes divers sont évoqués pour vous permettre de suivre. Alors, ma première question au sujet de la perception des genres, d'abord en Estonie, s'adresse donc aux auteurs estoniens. Et alors c'est la suivante. Quel écho médiatique accueille la parution de vos œuvres? Quel type de critique généraliste ou spécialisée leur accorde la plus large place? Et donc, comment la critique spécialisée et la critique générale, qui me semble assez importante à distinguer, parle-t-elle de vos œuvres? Et est-ce que cela, d'après vous, révèle quelque chose de la position des littératures de l'imaginaire dans votre pays?
En Estonie, une plateforme où l'on parle, où on critique, où on commente la littérature de l'imaginaire serait assez limitée. La plupart de ces choses ont eu lieu de façon, disons, dans des parutions non officielles, sur Internet, dans des forums, des blogs. Et c'est là qu'on trouve aussi, comme sous-genre, la critique littéraire avec des critiques autoproclamées qui sont plus actifs que des journalistes dans des revues littéraires. Donc il y a beaucoup plus de critiques de littérature de l'imaginaire online que dans des revues littéraires. Et ces revues sont peu nombreuses et la littérature de l'imaginaire n'est pas leur genre favori. Ce que l'on trouve le plus dans les écrits de critiques, eh bien, c'est la poésie, certains... écrivains, auteurs de prose aussi, disons les 40% des œuvres qui paraissent, et puis la littérature de l'imaginaire vient après. Et pour ces écrivains classiques, disons, la littérature de l'imaginaire est un genre peu digne, qui ne les intéresse pas spécialement et avec lequel auquel ils n'osent pas se frotter. Et encore moins écrire de cela, sur cela de façon officielle. Peut-être le tableau a-t-il changé récemment. On en parle peut-être. Mais en même temps, il n'y a pas de critique professionnelle pour ce genre, pour la littérature de l'imaginaire. On peut parler de... Pour la littérature secondaire, on peut dire qu'il y en a vraiment très peu.
Ma saan rääkida sellest
je peux
ulmevallast, ehk siis
parler de
maagiline realism, vaba fantaasia.
Du champ de la littérature de l'imaginaire et du réalisme magique.
Minu tööd mahuvad ja nende
dans lequel mes travaux finalement et mes écrits se rangent.
Palju kriitikat, erinevat kriitikat olnud. On head,
il y a eu de dire qu'il y a eu de la critique. Bon, c'est à la fois juste et faux.
Aga neid sellised, mis ennast tõesti õpetavad, neid on nagu ikkagi alati vähe.
Mais il y en a peu qui soient vraiment constructifs, qui apprennent quelque chose, peut-être deux ou trois articles, ça pourrait se résumer à cela. Dont on peut apprendre quelque chose.
Donc voilà qui dresse un tableau assez sombre de la situation critique avec une véritable ligne de fracture entre les auteurs des littératures de l'imaginaire et la façon dont les critiques généralistes les concernent, manifestement. Alors ensuite, je voulais vous demander si en dehors des éditeurs traditionnels, il y avait d'autres canaux pour publier en Estonie, notamment quand il s'agit de publier non pas des recueils ou des romans, mais des nouvelles isolées. Est-ce qu'on lit beaucoup de nouvelles dans des revues en Estonie? Qui édite ces revues? Est-ce que notamment vous avez couramment été édité dans ces revues? Est-ce que c'est un canal important, disons, dans ce domaine des littératures de l'imaginaire en Estonie, d'après vous?
De nouveau, des revues spécialisées sur papier, il y en a eu, mais il n'y en a plus qui soient spécialisées pour là. Nous avons en revanche eu des séries de livres qui agissaient sur le même principe que des revues. Donc les possibilités de publication étaient meilleures avec cela. La principale revue littéraire en Estonie, Looming, qui veut dire création, c'est une revue qui se consacre à la littérature classique, même si son rapport à la littérature de l'imaginaire est positif. Elle a été fondée par Fridebert Tuglas, qui l'a utilisé comme un forum assez ouvert, et des nouvelles, des récits imaginaires y sont parus. Le texte de moi qui paraît dans cette anthologie, Le spectre des blés, est paru dans Sirp, qui est un hebdomadaire culturel. kolmas kirjandus väljane. Le troisième, la troisième publication peut être Vikerkaard, qui veut dire arc-en-ciel. Moi, je n'y ai rien, mais Mehis peut-être a eu des textes qui sont parus dans, dans cette chose-là. Mais j'ai eu assez peu, finalement, de ces textes courts qui sont parus. Je n'ai pas eu trop de soucis à me faire pour cela, parce que j'en ai écrit peu de textes courts.
No ja, mul nagu ei ole oma juttudega.
Avec mes nouvelles, j'ai pu les publier dans les deux principaux, dans deux principales revues, donc Vikerkaar et Looming, qui paraissent en Estonie. Et en général, elles ont trouvé une possibilité, elles ont trouvé à apparaître. Comme je suis naturellement plutôt un auteur de textes courts, de nouvelles, les choses se sont passées de telle façon que bon, c'est mon occupation principale.
Et, écrivain,
freelance, si on veut, on a un système avec une fondation pour la culture qui donne des subventions et la moitié des ressources viennent de là et l'autre moitié des publications. Il est possible d'être auteur de récits courts et de récits de littérature de l'imaginaire et de vivre de cela. Avec l'aide donc des subventions officielles. Mais c'est possible.
Alors ensuite, j'avais une question pour Georges-Olivier Chatoreno, puisque vous avez également eu l'occasion de publier des nouvelles isolées comme La seule mortelle et Les ormeaux. Je voulais vous demander si donc, ce support, en marge de vos grands recueils, avait des spécificités qui vous intéressaient. Et notamment également autour de Résidence dernière, qui avait un aspect un peu de travail sur commande. Est-ce que ce format, un peu différent de ce dont vous avez l'habitude, des textes qui sont publiés mais dans un format très court, est-ce que ça a quelque chose de spécifique dans votre production ?
Moi, j'ai toujours publié la plupart de mes nouvelles en pré-publication, dans des revues, dans des magazines, dans des journaux, depuis toujours. Mm-hmm. Donc, il se trouve qu'en France, il y a un certain nombre de revues spécialisées dans les nouvelles, qui n'ont pas forcément un public très important, mais en tout cas, elles existent, elles publient des textes. Et puis, il y a aussi, au fil du temps, de grands organes d'information, comme Le Monde, notamment, pendant plusieurs années, a publié chaque semaine une nouvelle, mm-hmm. qui était reprise ensuite, ces nouvelles étaient reprises ensuite dans des recueils annuels. Je crois que L'Express l'a fait. Enfin, presque tous les grands magazines l'ont fait à un moment donné ou à un autre. Et puis, il y a aussi, n'oublions pas, la presse féminine qui est demanderesse de textes de fiction pour ses lectrices et qui, de façon discontinue, mais tout de même assez régulièrement au fil du temps, publie des nouvelles. Donc il y a des débouchés pour la publication de nouvelles en France. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse en vivre uniquement par ces prépublications. Hein. Alors que vous avez abordé le sujet des commandes.
Oui.
Hein? Alors effectivement, un certain nombre d'institutions, que ce soit des municipalités, il y a les commandes de journaux aussi, bien sûr, hein, mais il y a quelque chose d'assez particulier dans les commandes institutionnelles qui émanent d'une municipalité qui veut se servir de la nouvelle pour faire son action culturelle. Hein? Donc on propose, pas toujours, mais on propose le cas échéant un thème aux auteurs. Et alors il leur appartient de pervertir ce thème pour le tirer vers eux et en faire quelque chose de personnel. Et normalement, ça doit être à la portée de tout auteur. C'est pas parce qu'on vous dit d'écrire une nouvelle sur la culture de la betterave que vous allez forcément donner un texte qui sera d'une pure orthodoxie agricole. Au contraire, je pense que devant ces suggestions de la puissance invitante, les auteurs ont intérêt à tenter de ramener tout ça à leur problématique et à produire un texte personnel sous prétexte de culture de la betterave.
D'accord, merci. Alors je pense qu'on peut arrêter sur ce premier grand thème de la perception des genres de l'imaginaire en français et en Estonie. Et on va continuer après avoir lu un extrait donc d'une nouvelle, enfin non, une nouvelle complète de Indrek Hargla. Je crois qu'on commence par celle-ci. Ah non, on avait prévu Mélis d'abord.
Sur le programme, il est précisé que c'est la nouvelle de.
Alors oui, alors c'est ça. Mais
c'est peu importe. Hein. Bien, donc le début d'une nouvelle de Mehis Heinzar qui est publiée dans cette anthologie. Le texte s'intitule « L'histoire d'Oliver Helves » et il est traduit sous ma direction par les étudiants de l'INALCO. Enfin, il a été traduit il y a déjà un certain temps. Étudiants parmi lesquels se trouvait à l'époque également Martin Carayol. Voilà. Alors, « L'histoire d'Oliver Helves ». Bonjour, je m'appelle Alexander Plom. Il faut que je vous raconte un sombre épisode de ma vie qui me tourmente aujourd'hui encore. Outre moi-même, cette histoire concerne en grande partie l'écrivain Oliver Helves, qui est mort il y a quelques mois des suites d'un abus de vodka et que l'on a présenté dans le discours prononcé lors de son enterrement comme l'un des plus grands nouvellistes de notre siècle. Je reconnais que les récits parus sous le nom d'Oliver Helves justifient vraiment un tel hommage, même s'il n'a publié qu'un seul livre de son vivant, et même si celui-ci n'est en réalité... Mais n'anticipons pas. On peut trouver les textes d'Oliver Helves dans des manuels scolaires et une anthologie. À ma connaissance, ces nouvelles ont déjà été traduites en 15 langues, et les professeurs de littérature citent par cœur leur chute savoureuse. On discute même de l'opportunité de lui dresser une statue en bronze. Tout ce qui précède devrait me rappeler à la raison, et me forcer à interrompre immédiatement cette confession. Mais je sais que mon âme ne trouvera jamais le repos. Ce grand classique revient déjà me hanter dans mon sommeil. Voilà pourquoi, cher lecteur, je vous laisse le soin de juger par vous-même. Revenons maintenant une vingtaine d'années en arrière, à l'époque où Oliver Helves était encore un inconnu dans le monde littéraire, et où je transpirais quant à moi sur mon troisième roman, L'œil du faucon, en commençant à comprendre que je m'acheminais peu à peu vers une impasse, comme avec les deux romans précédents. À cette époque, Oliver travaillait comme veilleur de nuit. Pendant son temps libre, il écoutait en permanence les Rolling Stones, rêvant, tout comme moi, de devenir un génie. La seule différence entre nous était qu'il n'avait pas encore couché la moindre ligne sur le papier. Il pensait tout simplement qu'il se mettrait un jour de façon impromptue à écrire les meilleures histoires du monde. C'est exactement ainsi qu'il s'exprimait. Nous habitions tous les deux à Soupilin, lui rue du Melon et moi rue de la Pomme de Terre, et nous nous rendions assez souvent visite. Il avait l'appartement le plus accueillant que je connusse. Il y avait toujours du thé fumant sur la table, quelle que fût l'heure à laquelle on y allait. Au plafond étaient accrochés de vieux filets de pêche. Un électrophone jouait dans un coin. Deux canapés occupaient le centre de la pièce. Oliver était allongé sur l'un d'eux, et sur l'autre se trouvait un chat gris rayé qu'il avait recueilli dans un caniveau. J'en viens maintenant aux événements que je voulais raconter. Un soir, Oliver Helves me montra, l'air de rien, un récit qu'il disait avoir écrit en quelques heures la nuit précédente. Je dois dire que celui-ci me laissa sans voix. Quand je lisais les meilleures nouvelles de Touclas, Borges ou Hemingway, je ressentais toujours une sensation particulière et agréable au niveau du diaphragme. En lisant la première tentative littéraire d'Oliver, j'éprouvais aussitôt la même chose. Cela dépassait mon entendement. Chaque phrase semblait parfaitement calibrée. Construction irréprochable, alliance harmonieuse du lyrique et du grotesque, chute époustouflante. Comment Oliver, avec son regard éteint, avait-il réussi un tel tour de force ? Je parvins à grand-peine à donner l'impression que ce récit me laissait relativement indifférent. « Pour un début, c'est pas mal du tout, » lui dis-je d'un ton paternel, ce qui fit naître sur son visage un sourire énigmatique. Je me consolais tout d'abord en me disant qu'il s'agissait d'un pur hasard, d'un simple coup de chance. Ce sont des choses qui arrivent. Mais 5 jours plus tard, Oliver Helves me fourra sous le nez un nouveau récit en me demandant mon avis. Je fus tout aussi surpris que la première fois. L'intrigue me plaisait énormément. Un chercheur en littérature hérite de façon inattendue d'un vieux manoir, se réjouissant de pouvoir enfin travailler en paix à une théorie particulièrement complexe. Mais il s'avère bientôt qu'il n'est pas seul dans la maison. De temps en temps, il voit dans le couloir une femme élégante qui lui fait signe d'approcher, puis disparaît mystérieusement quand il arrive à son niveau. Ou bien, quelqu'un se verse un verre de vin derrière son dos et porte un toast à la santé de la future théorie, mais quand il se retourne, il ne voit personne. Une fois, un monsieur distingué s'approche du personnage principal et lui demande d'écouter la brève histoire de sa vie. mais celle-ci se révèle être un flot de paroles incohérentes qui se prolonge pendant des jours et des nuits. Petit à petit, le chercheur devient fou, se muant finalement en une figure aussi fantomatique que ses colocataires. À la fin de la nouvelle, il apparaît que ce manoir reçu en héritage n'est en réalité qu'une projection objective de l'univers intérieur névrotique du chercheur, un pur produit de son imagination, et que les colocataires sont les démons qui peuplent son subconscient. Le récit, écrit dans un style recherché, était psychologiquement crédible. Je considérais Oliver d'un regard étonné, sans dire un mot. Serait-il vraiment un génie ? Me demandai-je avec tristesse. Pendant environ un an, nous ne nous rendîmes plus visite. Je me débattais avec mon roman inachevable, L'œil du faucon, mais ne parvenais qu'à accroître le chaos dans le manuscrit comme dans mon esprit. De temps en temps, lorsque je croisais dans la rue Oliver Helves, tenant son chat gris tigré entre les bras, j'échangeais avec lui un rapide bonjour et j'accélérais le pas. Pendant cette période, la notoriété d'Oliver s'accrut. On commença à publier ses récits dans les revues Loaming et Norus. On l'invita à se produire dans la grande salle de l'Union des écrivains, où on le présenta comme un jeune écrivain brillant. Beaucoup voyaient en lui le prochain lauréat du prix Toklas de la Nouvelle. Personne ne doutait de son génie, sauf moi. Un an plus tard, par un soir d'octobre, comme j'étais exceptionnellement de bonne humeur, je décidai de rendre à nouveau visite à mon vieil ami. J'achetai deux bouteilles de vin et marchai nonchalamment jusqu'à la rue du Melon. Je frappai, mais personne ne vint m'ouvrir. Je collai l'oreille contre la porte et écoutai. On entendait un étrange flot de paroles, comme si un enfant à la voix nasillarde eût été en train de parler. « Mais que fait chez Oliver un enfant qui parle du nez ?» me demandai-je. La curiosité me tenaillait. J'ouvris la porte, tout doucement, et regardai à l'intérieur. Quelle surprise ! Le chat rayé, gris, était assis sur le canapé, les pattes croisées, un verre de vin entre les griffes, et dictait à son maître une nouvelle histoire, dans un estonien prononcé d'une voix de ventriloque. Oliver, tout nu, était affalé sur l'autre canapé, la tête appuyée sur une main, tapant à la machine de sa main libre. « Mais c'est impossible !» m'écriai-je intérieurement. Je me pinçai et frottai consciencieusement les yeux. Mais la scène resta la même. Le chat dictait, Oliver tapait. J'avais la gorge serrée d'écœurement. Toute ma vision du monde s'écroula d'un coup. Je m'éloignai de la porte en titubant, m'arrêtai dans le couloir pour vider une bouteille de vin afin d'éviter un arrêt cardiaque. Après quoi je rentrai chez moi où je passai 3 jours et 3 nuits à me retourner dans mon lit sans trouver le sommeil, délirant de fièvre. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'être humain est capable de s'habituer à tout, y compris aux choses les plus absurdes. Un matin, en me réveillant, je commençai à voir les choses sous un autre angle. En fin de compte, me dis-je, peu importe la manière dont une œuvre géniale naît. L'essentiel, c'est qu'elle naît, c'est qu'elle existe. Ainsi, eus-je l'idée de voler à Oliver Helves son idiot de chat et de le faire travailler à mon profit, pour changer. De quel droit Helves avait-il mérité un meilleur destin que moi ? N'avais-je pas souffert au moins 2 fois plus que lui du mal de vivre ? Voilà, et je vais m'arrêter ici pour ne pas trop déborder, donc je vous laisse découvrir la suite dans l'anthologie, notamment les mésaventures du narrateur avec le chat écrivain.
Merci. Alors, le thème suivant concerne la façon dont on désigne les différents genres de l'imaginaire. En commençant justement par cette première étiquette de genre de l'imaginaire, j'avais envie de demander à nos écrivains si cette étiquette, genre de l'imaginaire ou bien en estonien, donc ulme, les satisfaisait en tant qu'ensemble. Est-ce que c'est quelque chose en quoi vous vous retrouvez ? Ou est-ce que cette étiquette est secondaire dans votre parcours de lecteur et d'écrivain ? Question subsidiaire, si l'on veut, vos influences vous viennent-elles surtout d'auteurs relevant de cette catégorie précise ?
Pour moi, j'ai toujours été un écrivain de genre et il faut toujours considérer que, qu'il y a des attentes. Le lecteur a des attentes, on doit les satisfaire
et
on ne peut pas mettre trop de choses dans un genre donné. On doit mettre en place son univers en suivant un certain nombre de règles dans un genre donné pour que ça marche. Et j'ai toujours écrit de la littérature de genre, justement parce que je sais ce que je fais, je sais où, ce que je veux atteindre. Et c'est comme faire à manger. On sait exactement ce qu'on doit préparer, ce qu'on doit y mettre pour cela, comment on doit s'y prendre. Et à ce moment-là, le résultat est lui aussi mesurable. Et ça, c'est une formule qui me va. Je fais consciemment de littérature du genre, de l'imaginaire, et j'essaye pas de sortir de cela. Si en ce moment j'écris des romans criminels historiques, c'est la chose qui compte. J'écris des romans criminels, des romans policiers historiques, et je m'en tiens à cela. Je n'ai jamais écrit quoi que ce soit qui ne serait pas de l'horreur ou de la science-fiction. Je n'ai jamais écrit de littérature ordinaire, disons. Je ne sais pas écrire cela, je ne sais pas parler des choses ordinaires là où tout est comme dans la réalité, que ce soit je peux écrire l'histoire ou une réalité inventée, mais pas la réalité quotidienne. La littérature de l'imaginaire je n'ai pas commencé à écrire de la littérature de l'imaginaire de façon consciente ou de façon volontaire. Moi, je ne connais pas exactement les règles de ces différents genres. J'appellerais ça plutôt un réalisme magique ou de la fantaisie libre. Il me semble tout de même que par ma nature de créateur, je suis plutôt poète au départ, et que l'inspiration me donne un texte et ensuite je le réécris, je le recopie. Et ce genre d'écrivain
si
j'étais écrivain réaliste, bon, j'écrirais la réalité, mais comme j'ai grandi au milieu des contes de fées, je me suis mis à écrire des choses du même genre. C'était le seul réalisme ou la seule réalité que je pouvais concevoir. Il y a des lectures qui développent l'art, mais qui forme notre imaginaire. Et bon, en l'occurrence pour moi, c'est le réalisme magique. Et si on arrive à faire en sorte que le lecteur oublie tout, qu'on ait des pouvoirs hallucinogènes pour le lecteur, et que le lecteur arrive jusqu'à oublier le papier sur lequel il est en train de lire, eh bien, c'est l'alchimie du réalisme magique qui fonctionne là. Et pour moi, c'est la littérature de l'imaginaire, c'est l'idéal du réalisme magique, tout ce qui chamboule l'univers du lecteur. Par exemple, les âmes mortes, pour moi, bon, est tout à fait du réalisme magique, même si c'est une œuvre plus longue, c'est un roman. Mais...
Merci, Georges-Olivier.
Oui, la France n'est pas une terre d'élection pour le fantastique, et quand il est pratiqué, il est très largement signalisé. C'est-à-dire que le lecteur français, je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais je crois que le lecteur français cherche le lecteur de fantastique, l'amateur de fantastique, cherche sa pâture sous certaines couvertures avec des signaux qui lui sont adressés et qui lui font comprendre que oui, là, il va trouver ce qui l'intéresse. Et pour ma part, je me suis trouvé, dès le début, en fait, en porte-à-faux avec cette espèce de signalisation, parce que tous mes livres, depuis toujours, sont parus dans ce qu'on appelle des collections de mainstream, c'est-à-dire là où se trouve généralement la littérature réaliste, puisque la dominante de la littérature française est réaliste et psychologique. Et je ne récuse pas la psychologie, loin de là, bien entendu, ni même le réalisme, mais ils ne me suffisent pas. Donc les histoires que j'écris se rattachent, je pense, très largement à ce qu'on a appelé le réalisme magique, et cette appellation me convient très bien. L'appellation de fantastique, elle est très périlleuse. Et moi, je porte un peu ma revendication fantastique comme une croix, en fait, parce qu'elle induit un malentendu, puisqu'il m'est arrivé de parler et de lire souvent devant des jeunes publics, et au bout de la conversation, on me disait, mais monsieur, c'est pas fantastique vos histoires. Or, pourtant, je crois, je revendique leur caractère fantastique. Simplement, c'est un fantastique qui n'est pas référentiel, qui ne renvoie pas à des archétypes très largement utilisés dans la littérature fantastique, et donc qui n'est pas perçu comme du fantastique, comme du vrai fantastique. Alors, fort heureusement, le vrai fantastique, je ne suis pas vraiment client, il m'embête aussi. Donc il faut trouver sa place dans une sorte de zone crépusculaire de la littérature où on n'est pas dans le fantastique qui a des références manifestes, mais on est plutôt dans l'insolite, dans l'écart entre quoi et quoi, d'ailleurs. La réalité est plus vaste que la conception qu'en ont souvent les auteurs, les romanciers réalistes. Un certain nombre d'auteurs, spécialement en France, je crois, doivent se faufiler entre ces grandes catégories. C'est le cas d'un certain nombre d'auteurs que j'ai beaucoup lus, que j'admire beaucoup, comme André-Pierre de Mandiargue ou Marcel Schneider, ou plus loin dans le passé, Renard, non pas celui de Poil de Carotte, hein, mais celui du docteur Lerne et puis d'autres romans. Donc voilà, écrire du fantastique littéraire en France, c'est entrer dans une sorte de fausse clandestinité. Je dis fausse parce que du point de vue de la réception de mes livres et de leur publication, j'ai absolument pas à me plaindre, mais j'ai toujours ce sentiment de pas être exactement là où je peux être, quoi. Il y a ce que j'ai appelé depuis longtemps un fantastique malentendu autour du fantastique en France.
Alors justement, vous êtes deux à avoir mentionné l'expression de réalisme magique, Maurice et Georges Olivier. Et dans votre entendement des choses, manifestement, c'est une sorte de fantastique, mais sans les références manifestes auxquelles vous faisiez allusion. Et je suppose que ça correspond en fait au cliché du fantastique habituel.
Exactement.
Et alors, j'avais une question sur le réalisme magique en Estonie, sur cette étiquette précise de réalisme magique. Est-ce qu'elle est populaire? Quelle est son importance de manière générale? Est-ce que les éditeurs acceptent mieux un texte qui est publié sous l'étiquette de réalisme magique que sous celle de fantastique qui pose problème, comme on vient de le voir, dans un certain nombre de cas?
Oui, aujourd'hui, je pense que les éditeurs estoniens, quand ils se mettent à regarder la littérature de l'imaginaire, qu'il s'agisse d'auteurs estoniens ou de traductions, une des premières choses qui leur passe par la tête, c'est qu'on dirait en anglais,
young adult.
Et Bon, c'est un genre d'imaginaire, ça me plaît beaucoup, il en sort beaucoup, parce que ça guide, ça conduit les jeunes tôt ou tard vers les auteurs classiques de littérature de l'imaginaire. Mais pour les éditeurs, le réalisme magique en Estonie, c'est une chose dont ils n'ont pas beaucoup l'expérience. Les classiques estoniens ont beaucoup de réalisme psychologique, de réalisme critique, beaucoup d'autres sortes de réalisme, et les chercheurs en littérature, les critiques littéraires sont très, très bloqués sur ce type de réalisme. Et lorsque un monde imaginaire fantastique se présente, les critiques, les rédacteurs n'aiment pas beaucoup. Bon, les éditeurs ont leurs propres critères, naturellement. Les œuvres de Mehis sont ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui, bon, classique de réalisme magique, mais à côté de lui, il n'y a pas grand nombre de gens qui répondraient à cette qualification. Si on essaye de les classifier, d'autres qui tomberaient dans le... Bon, il y a d'autres gens qui sont vraiment réalistes, mais bon, pour le sous-genre réalisme magique, il n'y en a pas d'autres, à mon avis.
Urmas
Vadi, peut-être. Bon, peut-être qu'il s'occupe plus de théâtre maintenant, mais c'est quand même quelqu'un qu'on pourrait nommer. Mais Kivirah, peut-être aussi. Bon, si on parle de Kivirah, bon, ces textes courts sont plutôt humoristiques, mais bon, quelques auteurs isolés, naturellement, peuvent être mentionnés, mais quant à moi, j'ai mis une frontière imaginaire entre le réalisme magique et la littérature de l'imaginaire. Il est possible dans le réalisme magique, ce qu'on traite dans le réalisme magique pourrait arriver n'importe où ou nulle part dans la tête de quelqu'un. Mais pour moi, la littérature imaginaire, c'est quelque chose qui arrive maintenant, c'est certain, c'est quelque chose qui a lieu maintenant. J'ajouterais que, bon, pourquoi est-ce que les éditeurs et les lecteurs sont plus favorables à ce que j'écris? Je place mes récits dans un cadre très réaliste en Estonie, dans des villages, beaucoup de gens sont réels, il y a des politiciens, des gens connus, des musiciens, des gens donc, que l'on connaît, que je place, pour ainsi dire, comme dans des circonstances de conte de fées, mais l'histoire au départ prend forme à partir de quelque chose de très naturel de la vie. Peut-être d'un problème, d'une souffrance, d'une maladie.
Non.
J'ajouterais peut-être encore que
ce
qui m'a aidé comme écrivain, c'est peut-être pas si personnel que cela. Bon, enfin, ça fait 12 ans que j'essaye. une maladie de
nerveuse,
des douleurs dans la poitrine, dans les jambes, je vais chez le médecin, il n'y a rien, ça se déplace.
Le fait de ne pas savoir,
c'est ce qui est le plus effrayant. Et on arrive à une sorte de climax, une histoire qui sort de là.
Et cette
douleur psychosomatique va disparaître avec cela. C'est une chose qui a été pour moi déterminante dans l'écrire de beaucoup de récits. Il y a beaucoup de canaux qui aident à engendrer des histoires à partir d'un contexte très réaliste.
Et est-ce qu'il y a dans le réalisme magique, donc on a bien compris que Mehi Seinsaar en Estonie en était le principal représentant, mais est-ce qu'il y a des précurseurs? Est-ce que dans la conception estonienne des choses au sujet du réalisme magique, on envisage de grands précurseurs, comme en France, on envisage Borges et Gabriel García Márquez dès qu'on évoque cette étiquette de réalisme magique? Est-ce que c'est la même chose là-bas, ou est-ce qu'on ne met pas exactement la même chose dedans, du point de vue des précurseurs?
Non,
on peut dire que
Frieder
Tuglas,
novelliste,
un novelliste
dont le nom
a été donné à un prix qui a fini son activité littéraire par des nouvelles de réalisme magique, justement. Bon, c'était un écrivain très, 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 très important et un critique, et Frieder Tuglas est certainement l'un d'entre eux. Oui, August Gailit aussi, peut-être aussi Peet Vallak. Dont un cycle en particulier est très rattachable à ce genre de réalisme magique. Mais je répéterai que le réalisme critique ou la nouvelle réaliste, quand elle est écrite avec une telle intensité, avec une observation vraiment microscopique qui fait que cette histoire bouleverse complètement l'individu, alors c'est toujours du réalisme magique. Cette frontière est très floue. Tamsare ou Thomas Vint,
Arvo
Valton aussi naturellement. J'ajouterai encore, quand j'ai écrit, j'ai rassemblé des anthologies, et donc quand j'ai écrit les préfaces pour ces Seinsaar est le seul écrivain qui n'a jamais écrit une nouvelle fantastique, même s'il y a un contenu fantastique dans son, mais c'est une exception. Gailit, Tuglas, Tamsare, Valton, tous sont écrits dans une certaine mesure de telles histoires, des récits fantastiques dans une atmosphère de campagne, de village, ou d'une façon plus irréelle, mais Gailit, par exemple, que nous avons mentionné, il a des histoires très, très, très déprimantes qui se sont insérées dans une vogue qui tentait de traduire l'expérience horrible de la Première Guerre mondiale. Et bon, il a des textes très, 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 très forts.
Alors, pour rester dans le thème des autres étiquettes qui font plus ou moins partie de ces grands genres de l'imaginaire ou qui les côtoient, on peut évoquer également le projet de la nouvelle fiction, qui est un groupe dont Georges-Olivier Chateauréneau
fait partie, et j'aimerais lui demander de l'évoquer en quelques mots, d'évoquer la position de ce groupe Nouvelle Fiction par rapport au courant dominant.
C'est une question de génération. J'appartiens, et les membres de la Nouvelle Fiction appartiennent à une génération qui s'est trouvée face à un élément nouveau, c'est-à-dire que c'est vers 1970 à peu près, fin des années 60 et début des années 70, les sciences humaines ont envahi le champ de la littérature. Elles y étaient, elles avaient leur place, mais soudain, elles ont presque chassé. Pendant quelques années, on a cru que le roman, c'était quelque chose de tout à fait ringard, que ça n'avait plus aucun intérêt, et que un corpus d'œuvres avait été accumulé, et que le moment était venu de les décrypter grâce aux sciences humaines. Alors, sciences humaines, c'était la psychanalyse, le structuralisme, le marxisme, la linguistique, pour simplifier. Et je ne sais pas si beaucoup de personnes dans cette salle se souviennent de ce moment et des revues, la revue Telle Quelle, la revue Change, qui paraissait à ce moment-là. C'était ce moment-là. Et le grand écrivain, l'image de l'écrit du grand écrivain en France, c'était Roland Barthes. Et Roland Barthes est sans doute quelqu'un de très important, mais Dieu sait si c'est un anti-romancier, c'est quelqu'un qui s'est cassé le nez contre le roman. Et donc on privilégiait ce qu'il a fait à la place du roman, c'est-à-dire l'élucidation, la réflexion, tout ça. Et donc un certain nombre de... l'université n'était pas étrangère à tout ça, parce que l'université française trouvait sa manne dans cette littérature chassée par les sciences humaines. Mais les écrivains n'y trouvaient pas tous leur bonheur, parce que moi, je faisais partie justement de cette catégorie d'écrivains qui avaient besoin de la fiction, qui n'avaient pas spécialement besoin des sciences humaines pour écrire, qui parfois y puisaient des éléments de réflexion, mais qui n'avaient pas du tout l'intention de subordonner la création, toute la création littéraire, à ces sciences nouvelles. Et donc, tout naturellement, au fil des années, un certain nombre d'auteurs appartenant à cette génération et qui partageaient cette méfiance et ce désir de sauvegarder la fiction, le mécanisme de la fiction, qui après tout a donné la plupart des grandes œuvres auxquelles se réfère l'humanité, eh bien, ces écrivains se sont reconnus entre eux, une partie d'entre eux se sont reconnus, se sont retrouvés et se sont unis. Et ce qu'on appelle la nouvelle fiction, qui n'est pas connue, pas très connue du grand public, ne s'est pas constituée du jour au lendemain par une bande d'écrivains, n'a pas été constituée par une bande d'écrivains qui voulait exister en décrétant une nouvelle fiction, comme il y avait eu un nouveau roman, comme il y a eu à peu près dans les mêmes eaux une nouvelle philosophie ou une nouvelle cuisine. Tous ces gens avaient déjà écrit, avaient déjà entamé leur œuvre de fiction, quand finalement ils se sont agglomérés. Alors, ces gens, c'est Marc Petit, Frédéric Tristan, Hubert Haddad, Sylvain Jouty, François Coupry, j'en oublie toujours quand je fais l'énumération. En tout cas, ce qui nous a réunis, c'est nous sommes ralliés autour du drapeau de la fiction, c'est-à-dire que nous considérions depuis le début que nous avions le droit d'inventer, que nous n'étions pas des sortes de fournisseurs de matières premières aux sciences premières qui allaient aux sciences humaines qui allaient ensuite nous étudier et nous élucider, mais que nous étions purement et simplement des créateurs. Alors je sais bien que le mot a quelque chose qui fait parfois un peu vieux jeu, mais c'est un mot auquel nous croyons également, comme un mot fiction, d'où la nouvelle fiction.
Merci. Alors comme transition vers notre troisième partie, nous avions pensé à faire lire une nouvelle à Monsieur Château-Renaud, une de ses propres nouvelles, si vous voulez bien reprendre la parole après avoir déjà beaucoup parlé.
D'accord.
Si ça vous convient.
Alors, c'est la nouvelle éponyme de ce recueil qui s'intitule « Le kiosque et le tilleul ». Au retour d'une guerre, au cours de laquelle il avait, comme à son habitude, défait maint ennemi et réduit maint oppidum en cendres et en cailloutis, le roi Guita voulut prendre le frais sous un certain vieux kiosque. Nulle légende ne s'attachait à ce lieu. C'était dans la cour la plus reculée du palais, un simple kiosque de pierre, dont le sol s'ornait d'une mosaïque sans grande originalité. L'édicule, en tout et pour tout meublé d'un banc de bois, était flanqué d'un tilleul. Au temps déjà lointain de son enfance, le roi Guita avait passé là de longues et douces soirées, à jouer au pied de sa gouvernante, dans l'odeur fade du tilleul. Quand il découvrit qu'en son absence, on avait rasé le kiosque et abattu l'arbre, il entra dans une colère royale. Il convoqua l'architecte du palais et le somma de s'expliquer. D'une voix chevrotante, l'homme plaida pour sa vie. N'était-il pas de son devoir, en prévision de la victoire de son maître et des trésors qu'il n'allait pas manquer de rapporter, d'agrandir les magasins du palais ? Et puisque cette cour oubliée de tous, avec son kiosque vétuste et son tilleul souffreteux, jouxtait un des entrepôts déjà engorgés par le butin des campagnes précédentes, le roi Guita reconnut en lui-même que l'architecte avait cru bien faire, et dans un premier temps, il l'épargna. Cependant, un sentiment de perte irréparable l'envahissait. Chaque fois qu'il repensait à la fraîcheur des dalles du kiosque sous ses genoux, tandis qu'il humait les feuilles oblongues portées jusqu'à lui par la brise, il lui semblait avoir perdu là plus qu'une ville, plus qu'une province, quelque chose comme le cœur secret de son royaume. Un jour que ce sentiment l'assaillait avec plus de force qu'à l'ordinaire, son regard s'arrêta sur l'architecte. Il fronça les sourcils et le fit mettre à mort. Il ordonna à son successeur de relever le kiosque dans la cour reconstituée à l'identique et d'y transplanter un arbre, tout semblable au premier. Un soir, enfin, il alla s'asseoir seul sur le banc de bois. Il resta un long moment à humer l'air en vain. Les exhalaisons du tilleul lui parurent dénaturées et étrangères. Quand la lumière eut décru au point que les mosaïques fussent devenues indistinctes, il se laissa glisser du banc sur le sol, à l'endroit même où, enfant, il avait coulé tant d'heures paisibles. Il palpa le parement de mosaïque, sans y retrouver les mêmes reliefs infimes, les mêmes fissures minuscules, les mêmes traces d'usure dont le bout de ses doigts avait conservé le souvenir. Ce prince implacable pleura. Il eut très peur, lui qui n'avait jamais tremblé. Naguère, pure mémoire, le kiosque et le tilleul étaient redevenus matière. Le roi douta de ses propres souvenirs, il douta de son propre nom, il douta d'être roi. Et s'il n'était pas le roi Guita, par Dieu, qui était-il ? Et que faisait-il en ce palais inconnu, par cette nuit hostile ? Pour être sûr de ne plus jamais éprouver cette sensation de cauchemar, il interdit à jamais qu'on modifiât le plan de la cité, fût-ce dans le moindre détail. On pourrait certes l'étendre, on aurait le devoir sacré de l'entretenir, mais ce qui était déjà serait toujours, et jouirait de droits imprescriptibles, d'une priorité absolue sur ce que n'était pas encore, surtout l'informe et l'innommé de l'avenir. Il faut croire que la personnalité et le projet du roi Guita fascinèrent ses sujets et leurs descendants, car longtemps, et presque jusqu'à nos jours, il en fut fait selon sa volonté. Aujourd'hui, il est vrai, on n'ose plus guère s'aventurer dans le cœur lointain, où les jours de grand vent, les dernières bâtisses contemporaines du fondateur, achèvent de se briser, comme les vagues d'un océan de pierrailles. On a même renoncé à préserver encore le réseau inextricable et dangereux des ruelles médiévales. Mais c'est à la longue fidélité d'un peuple, à la folie d'un homme, que nous devons d'habiter l'unique exemple d'urbanisme visant à la totalité. Une cité concentrique et cumulative, le temps et la ville tournant idéalement autour d'un souvenir, comme une roue autour d'un axe. Voilà.
Merci. Alors, notre thème suivant concerne l'influence anglo-saxonne en Estonie et éventuellement en France. Est-ce que cette influence des auteurs anglo-saxons et notamment américains vous paraît importante dans la production estonienne ? Et y a-t-il eu des auteurs anglo-saxons qui ont une importance historique dans la littérature estonienne, qui ont été copieusement traduits et lus, et dont peut-être plusieurs auteurs aujourd'hui encore se réclament ?
Je dirais que oui et non, à mon avis. On ne peut pas nier que dans notre monde aujourd'hui, la langue anglaise, aussi bien culturellement que dans les médias, ait de l'influence. Et dans le, en ce qui concerne un genre comme la littérature de l'imaginaire ou aussi la littérature policière, il est certain qu'il y a une influence, mais il faut faire une différence entre ce que c'est que l'influence et ce que c'est que l'inspiration. Par exemple, la littérature de l'imaginaire anglaise, enfin de langue anglaise, a été, une influence sur l'Europe continentale. Dans toutes ces branches, aussi bien la fantasy que l'horreur, tout a été aussi influencé par la littérature d'Europe continentale et c'est revenu après par le biais de la littérature anglo-saxonne. Bon, comme il n'y a pas beaucoup de ce genre en Estonie, tous les auteurs sont aussi des traducteurs et en particulier traduisent de l'anglais. Donc, une influence ou une inspiration est certainement décelable, mais la bonne littérature, et j'espère qu'en Estonie il y a de la bonne littérature, de l'imaginaire, la littérature de l'imaginaire ne se laisse pas influencer par des choses qui ne doivent pas l'influencer. Et l'inspiration, il y a toujours de choses positives et bonnes. Donc c'est pas forcément une marque négative de subir une influence ou d'avoir une inspiration. Je pense que Indrek a dit exactement ce qu'il fallait. J'ajouterais simplement quelques noms qui sont qui sont pas liés à un genre très très étroit mais précis, à l'époque soviétique est paru en Estonie Ray Bradbury, ensuite la première bonne traduction de Edgar Allan Poe à la fin de l'époque soviétique. Et l'influence aussi, on peut parler Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, Henry James, Le Tour des Grues. Bon, c'est une palette très, très, très large, encore une fois.
Alors, toujours au chapitre des influences, est-ce qu'il vous est arrivé aux uns et aux autres d'écrire des passages ou des nouvelles entières en hommage à tel ou tel auteur ? Ou disons, plus généralement, en ayant en tête quelqu'un de précis au moment où vous écriviez ?
Ça m'est arrivé, mais ça ne me revient pas à l'esprit juste maintenant. Oui, oui. Il y a des thèmes dans la littérature de l'imaginaire. Il y a un thème très classique, le fait qu'on ne puisse pas remonter le temps. Et quand on joue avec ce thème-là, forcément, on entre en contact avec des motifs ou des thèmes que d'autres auteurs ont traités dans leurs œuvres classiques. Et qu'on le veuille ou pas, on fait des citations ou on rend hommage à ces auteurs. Je me suis même demandé, je ne me rappelle pas, mais j'ai envisagé à propos d'un récit de rendre de cette façon un hommage et de l'inscrire avant l'histoire, mais finalement bon, ça s'est trouvé dans une postface. Mais oui, les écrivains sont des gens qui empruntent les uns aux autres, qui se laissent inspirer, et lorsqu'on le reconnaît et qu'on rend hommage à cette source d'inspiration, c'est tout à fait naturel. Oui, je pense qu'Indrek, que la dernière phrase d'Indrek Kargla était tout à fait juste, cet hommage à quelqu'un. Il y a tellement d'influence le style a pénétré notre écrit, et puis bon, l'hommage suit naturellement. C'est arrivé dans mon cas pour August Geilit, dont le style a certainement des analogies avec le mien, et quelqu'un que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et que je relis encore aujourd'hui. Mais il est étrange que par exemple une fois, j'étais très fatigué, j'étais dans une bibliothèque et je me suis trouvé devant un texte de Yukio Mishima traduit par Rein Raud dans la revue Vikarkar, donc le célèbre écrivain japonais, un texte bref, très étrange, donc un petit récit magique, et c'était si incroyable, un style si étonnant que toute cette soirée en a été chamboulée pour moi, bouleversée, c'est une nouvelle branche, une nouvelle possibilité stylistique qui s'est ouverte pour moi, et j'ai trois ou quatre styles possibles, et l'un d'entre eux est justement né de là. Et pendant quelques temps, je l'ai adopté et mon style a changé tout à fait. Et je me suis rappelé maintenant ce nom qui m'échappait. C'était Hans Christian Andersen. Avec son conte de fées Blanche-Neige. Quand j'ai relu ça il y a quelques années, je me suis rendu compte que la Reine des Neiges, je me suis rendu compte que c'était, il y avait sous cela vraiment du cyberpunk, ou enfin, le fait de mettre des puces dans l'œil, le développement numérique, disons, de tout cela était très 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 clair, très facile à imaginer. Tout était déjà là. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une version moderne de l'ère numérique. Et peut-être que je vais poursuivre ça.
Georges-Olivier, si vous avez une réponse à cette question.
Oui, il m'est arrivé, j'ai écrit un triptyque de nouvelles, mais mes recueils généralement ne sont pas thématiques. Quand je les écris au fil du temps, puis quand j'en ai assez, comme une botte de radis, je les mets ensemble et je les donne à mon éditeur. Mais par deux fois, j'ai écrit des courts recueils thématiques, et notamment un qui est constitué de trois hommages à de grands textes. Ce sont des fictions, bien sûr, ce sont des nouvelles, mais inspirés par de grands textes de la littérature pour enfants. Et ces trois textes sont De l'autre côté du miroir, donc Lewis Carroll, Alice, Pinocchio de Collodi et Peter Pan de... Il m'échappe pour l'instant. James Barry. Et c'était passionnant à faire, parce qu'il y avait aussi il fallait à chaque fois... les textes que j'écris sont à la fois très éloignés de ces modèles, qui sont des textes admirables. Peter Pan est une grande œuvre, notamment. Et en même temps, il faut qu'ils entretiennent des liens étroits avec ces œuvres matricielles. Et donc, c'était très intéressant à écrire. C'était très excitant à écrire.
D'accord. Alors, avant de passer à notre quatrième partie, nous allons lire une nouvelle d'Indrek Harla.
Alors, il s'agit d'une nouvelle qui s'intitule « Le spectre des blés » et que je vais lire dans une version légèrement abrégée. Pour pouvoir lire la nouvelle dans son déroulement complet, il a fallu que j'abrège un petit peu le texte vers le milieu, de manière à avoir malgré tout le début et la fin. Mon fils de 5 ans, Andreas, me raconta qu'il avait couru depuis le champ de céréales vers la grande route et qu'il s'était fait écraser par un camion. Le véhicule l'avait heurté si fort que tous ses os s'étaient brisés. Il n'était plus qu'une masse informe, et avait atterri très loin du camion. Il savait qu'on n'avait pas le droit de courir vers la grande route, mais Harvey, son grand frère, par jeu, l'avait poursuivi au milieu des céréales en disant qu'il était le spectre des blés et qu'il allait le manger. « J'ai eu tellement peur, » disait Andreas. « Je n'ai pas du tout compris où je courais. Je n'avais pas envie d'être mort. » Il me raconta cela la nuit, alors qu'il venait de se réveiller et commençait à pleurer. Sa voix était d'une certaine façon plus âgée, plus intelligente que d'habitude. Nous le consolâmes, lui fîmes boire une grenadine. Ensuite, il put se recoucher. Il continua simplement de marmonner dans son rêve. « Hérom, Hérom, je m'appelle Hérom. » Le matin suivant, Andreas ne se rappelait plus rien. En le conduisant à la maternelle, je lui demandai où il avait entendu cette histoire de Harvey et de spectre des blés. Était-ce les autres enfants qui avaient raconté cela ? Il ouvrit de grands yeux et ne comprit rien du tout. Je continuai de poser des questions, et à la fin, il me dit que je devais avoir la fièvre pour dire de telles bêtises. « Papa, papa, » fit Andreas, « mais ça n'existe pas, les spectres des blés. » Pourtant, je me rappelais précisément. Harvey avait joué au spectre des blés, et il avait poursuivi Hérom jusqu'à la grande route, jusqu'au camion. Harvey et Hérom, ces noms me hantaient. Je me les répétais à moi-même, ils tournaient dans ma tête, et ce tohu-bohu fit soudain apparaître devant mes yeux une jolie petite pensée mise en mots. Harvey doit être en vie. Grâce à la Société des anciens étudiants, il était envisageable de faire chercher, s'il vivait en Estonie, un certain Harvey, avec un frère appelé Hérom, et qui... Ce n'était pas simple, mais pas difficile non plus. Un journaliste de ma connaissance m'aida. Il fallut fouiller dans le registre de recensement. J'en avais même une copie avec une dépêche d'un journal local. Région du Järvamaa, commune de Kareda, village de Loik. Depuis Tartu, cela prit 7 heures avec 3 changements de car. Ensuite, je dus suivre une route départementale sur 2 kilomètres, cette même route sur laquelle avait jadis roulé un camion. Et j'arrivais à destination. Une maison rouge, derrière une haie de lilas, des bâtiments annexes, un ancien champ, celui-là même, une maison estonienne moyennement jolie, entretenue mais pas décorée. J'étais sur la grande route et je regardais la maison en me demandant qui pouvait habiter là et ce que j'allais leur dire. Mais il y a dans la vie des choses qu'un élan intérieur vous force tout simplement à faire, même quand vous ne savez pas vraiment les justifier à vos propres yeux. Cette maison et ce qui s'y était passé avaient d'une façon ou d'une autre un rapport avec mon fils. Ce genre de rapport impossible à définir, mais qui ne vous laisse pas en paix avant que vous n'ayez essayé d'y trouver une explication. Je me tins au portail jusqu'au moment où l'aboiement d'un chien poussa une femme à sortir, une femme d'âge moyen. Elle s'arrêta à la porte, regarda, puis cria « Oui ?»« Je suis de Tartu, » m'écriai-je en réponse, comme si c'était une explication. « Roma Skingu, c'est mon nom. Je suis venu à cause de Hérom. » « À cause de Hérom ? Notre Hérom ?»« Oui. »« Peter !» cria la femme. Et un instant plus tard, un rural bien costaud apparut à la porte. Ils échangèrent quelques mots. L'homme s'approcha lentement de moi. Je n'eus le temps de rien dire. Il enlevait déjà le crochet du portail, gueulait quelque chose au chien et me laissait entrer. « Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de Hérom. »« Je sais. » Ensuite, nous nous assîmes dans la cuisine. On me proposa du café, très sucré et serré, avec de la crème, des sandwichs au jambon. Derrière nous se tenait un jeune homme que l'on me présenta comme étant Harvey. « En ce moment, il étudie, » ajouta Peter. « Il aimerait entrer à l'université agricole cet automne. C'est notre seul enfant. Cela fait déjà 11 ans que Hérom... Oui, vous avez l'air de connaître l'histoire. Si vous avez des enfants vous-même... Oui, c'est le cas. C'est pour ça que je n'arrive pas à imaginer ce que signifie perdre un enfant. « Mieux vaut ne jamais l'imaginer, » fit Peter. « Pourquoi êtes-vous venu ?»« Il se trouve que j'ai entendu l'histoire de la disparition de Hérom, et c'est mon propre fils qui me l'a raconté, alors qu'il n'a pas encore 5 ans, et je ne sais absolument pas où il a pu l'entendre. » L'homme et la femme se regardèrent, haussèrent les épaules. « Par ici, il y a beaucoup de gens qui savent, » marmonna alors la femme. « Oui, mais comment mon fils pouvait-il en connaître autant de détails ? Entendre cela est douloureux pour vous, mais... « Parlez, » murmura la femme. « Ça fait longtemps que ce n'est plus douloureux. Ça fait longtemps que je ne sens plus rien. » Alors je parlais de ce que m'avait dit Andreas, comment ils avaient joué dans les champs de céréales, comment Harvey était devenu le spectre des blés et avait poursuivi Hérom, et la souffrance insoutenable de Hérom au moment du choc avec le camion. Je parlais, regardant devant moi la tasse de café et le sandwich à moitié grignoté. Il ne sait plus qu'il m'a dit tout cela, ajoutai-je en conclusion. Il ne se souvient pas du tout. J'ai essayé d'enquêter sur la façon dont il a pu connaître ces choses, mais rien. Et ensuite, je me suis souvenu de certains contes populaires. J'ai cherché dans les archives. Vous savez, ce genre d'histoire a déjà été conté autrefois, quand les enfants ressentent tout d'un coup ce qu'un autre enfant a jadis ressenti, voit, se rappelle. Je ne pouvais pas ne pas venir. Quelque chose avait changé. Je levai les yeux et je vis le regard effrayé de la femme. Je voulus me lever, m'excuser et partir. Venir ici avait été une sacrée bêtise. Harvey me devança. Sa bouche laissa échapper un petit râle et il se précipita hors de la pièce. La porte claqua lourdement. C'était donc lui que ma bêtise avait le plus atteint. « Excusez-moi, dis-je. Oui, je n'aurais pas dû venir, pardonnez-moi. » S'excuser aussi était une bêtise, mais dans cette situation, cela me semblait franchement essentiel. Je restai sur le seuil et essayai d'aspirer de l'air frais, autant que possible, à plein poumon, car moi aussi je crois stupidement qu'aspirer de l'air a un pouvoir rafraîchissant, mais l'air ne me fut d'aucune aide. Harvey avait couru vers le champ, là où ne poussait plus de céréales. Je le vis courir à travers le terrain vide, grimper une colline, de plus en plus loin. Il courait sans s'arrêter, aspirait de l'air. Il courait en rond, peut-être à l'endroit même où jadis lui et Hérome se promenaient dans les blés. Est-ce que moi, par exemple, à 9 ans, j'aurais été capable d'avouer à mes parents que j'avais amené mon propre frère à se faire écraser sur la grande route? Comment cette famille, par la suite, aurait-elle pu continuer à vivre? Maintenant, cela ne fait plus aussi mal. Maintenant, cela n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Je regardais Harvey courir, courir comme un dément pour fuir son propre spectre des blés, qui depuis 10 ans le poursuivait et resterait toute sa vie à les piller. Il n'offre pas d'issue, celui-là. C'est ton spectre des blés rien qu'à toi. Il hante tes rêves et te force dans les nuits sombres à presser le pas, à te réveiller dans le noir et à hurler de peur en silence. Ton spectre des blés rien qu'à toi, que tu as imaginé et invoqué tout seul. Il existe vraiment et tu ne lui échapperas jamais.
Merci. Alors, il nous reste un dernier thème à aborder, l'écriture de l'imaginaire, et en particulier, ce thème va concerner la nouvelle, puisque nos trois auteurs sont autant, voire davantage, nouvellistes que romanciers. Alors, souvent, quand on parle des littératures de l'imaginaire, on dit que la nouvelle est particulièrement adaptée pour écrire ces littératures. Et on le voit, par exemple, dans l'histoire du fantastique, puisque les grands classiques du fantastique sont vraiment presque tous des nouvellistes. On peut citer Poe, qui a déjà été cité, Maupassant, Lovecraft. Chez nous, il y a encore André-Pierre de Mandiargues et Marcel Schneider, cités par Georges-Olivier Chateauneuf, également Borges, Buzzati, Henry James. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'une des deux formes a votre préférence? Si oui, pour quel type de texte? Pourquoi? Pourquoi tant de nouvelles dans vos œuvres? Et lorsqu'une idée de sujet se présente, est-ce qu'un auteur sait immédiatement si ce sera le sujet d'une nouvelle ou si c'est une idée qui peut éventuellement donner lieu à un roman en étant développée? Comment ça se passe précisément?
Je dirais que oui, au départ, j'ai écrit beaucoup de nouvelles, de textes courts et dernièrement davantage de romans. Ma forme favorite, c'est le roman bref, en réalité. Ce qu'en anglais, on appelle novella. Quelque chose qui ferait 60-70 pages peut-être. C'est peut-être ce que je préfère vraiment. On peut aller un petit peu plus profondément, on peut approfondir, on ne doit pas se concentrer sur un seul événement, on peut avoir davantage de personnages, des lignes secondaires. Et j'ai écrit dernièrement assez peu de nouvelles. Je crois que si je veux rêver, oublier, fuir, alors j'écris du roman. Si je me rends compte que je dois travailler, que je dois me discipliner, alors j'écris une nouvelle. La nouvelle est beaucoup plus difficile à écrire que le roman. Non pas, que, non pas qu'il n'y ait pas besoin de travail pour écrire un roman, mais les possibilités d'échappatoire sont beaucoup plus grandes. Il est beaucoup plus facile d'être plongé dans ce que l'on écrit. C'est pourquoi je pense que ma forme préférée est vraiment la nouvelle longue, et que le roman est plutôt ce qui rend possible, qui facilite davantage l'expression de soi en littérature. Pour ce qui est des idées, oui, c'est une chose essentielle. Quand on a une idée, quand certaines idées se rencontrent dans l'esprit, elles se présentent d'abord sous forme d'histoire, de petits récits. Ça peut rester 3, 4, 5 ans avant que je les écrive, et à ce moment-là, ces idées sont si travaillées, déjà si explorées, plus bref qu'un roman court, on ne peut pas le faire. D'autres sont plus impulsives, mais quand on commence à écrire, il est très important de savoir ce que le volume va être, ce que la longueur va être. Le tempo, le rythme, la longueur des dialogues, les digressions, tout cela en dépend. Pour moi, Les nouvelles, les textes courts de 5-10 pages sont vraiment mes favoris. Il m'est arrivé de planifier des choses plus longues, mais elles ont toujours tendance à se retrouver sous la forme de textes courts à la fin, c'est-à-dire que je les abandonne en cours de route. Et on reste dans des textes courts. Il y a eu des périodes entre temps où je me suis beaucoup promené, j'ai fait de la randonnée, et il y avait des histoires qui me venaient pendant que je marchais. Et l'inspiration est telle que bon, on écrit toujours 20 pages dans son carnet, et puis après ça repose, et si on les a encore dans l'idée quelques mois plus tard, bon, c'est signe que c'est intéressant, qu'il y a quelque chose à en faire. Si je les oublie, bon, c'est pas grave, c'est signe que c'était pas la peine. Donc il me reste des réserves pour les jours de pénurie, des réserves de bonnes idées comme de confiture ou de vin. Je sais qu'il y en a. Et en temps de disette, j'irai chercher dans ce garde-manger, et j'en concrétiserai quelques-unes pour écrire une histoire jusqu'au bout, de façon professionnelle, disons. Mais l'essentiel... pour le réalisme magique, c'est j'ai confiance uniquement dans ce qui est né de l'inspiration. L'inspiration est quand même toujours efficace, et je crois vraiment que quelque chose comme la main d'un esprit primitif existe, et dont l'écrivain n'est que l'instrument. Mais cette inspiration initiale, pour moi, amène vraiment des histoires courtes, 5 à 10 pages, 20 maximum. Et c'est rare que ça me donne des textes plus longs que cela. Si je peux interrompre, il est tout à fait vrai que je suis d'accord avec le fait que l'écrivain écoute, entend des histoires, et il écrit ce qu'il entend. Comme un compositeur entend de la musique, il ne pense pas de la musique. Elle existe quelque part et elle lui vient. C'est pareil avec les histoires.
pour avoir, depuis une quarantaine d'années, participé à beaucoup de rencontres sur la nouvelle, j'ai été amené bien entendu, à réfléchir un petit peu à ce qui la différencie du roman, ce qui est un peu une bouteille à l'encre. Mais, et c'est par des images que je suis arrivé à m'en faire une idée, et des images toutes simples, d'ailleurs. On peut comparer la nouvelle à une simple cahute. C'est rien du tout une nouvelle, c'est une paillote qu'on construit en quelques jours, en quelques semaines, des fois en quelques heures. Ça ne demande rien du tout, un peu de paille, un peu de bois, un tour de main, et puis voilà. Un roman, c'est autre chose, c'est un véritable building, c'est un immeuble. Et pour construire un immeuble, il faut creuser le sol, il faut des fondations, il y a une logistique à mettre en œuvre. Tous les éléments du roman, il faut que vous les ameniez à pied d'œuvre, exactement comme les matériaux d'un building que vous construiriez. Et cette différence-là, bien entendu, induit une dépense d'énergie considérable dans l'écriture d'un roman. Un romancier va consacrer un an, deux ans, trois ans, des fois plus de sa vie, véritablement, à son roman. Et finalement, c'est beaucoup. Des fois, on consacre moins de temps que ça à des êtres qu'on aime beaucoup. En revanche, quand on écrit une nouvelle, on sait parfaitement qu'on ne part pas pour un long voyage, ni dans le temps, ni dans l'espace. On part pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois au grand maximum. Donc, la nouvelle est un art de liberté. Alors, je reconnais, vous l'avez signalé, que cette liberté demande un effort de concentration. C'est effectivement difficile. Enfin non, ce qui est difficile à écrire, c'est une bonne nouvelle. Une mauvaise, ça s'écrit très facilement. C'est vraiment pas un problème. Mais... donc, entre effectivement l'espèce d'esclavage, même momentané, mais, enfin, qui s'étale sur au minimum, le plus souvent, un an, deux ans, trois ans, que représente un roman, et la liberté du bâtisseur de paillotte, du nouvelliste, évidemment, pour avoir pratiqué les deux longuement et depuis longtemps, je préfère la liberté, comme tout le monde.
Merci. Alors, nous n'avons que 5 minutes à peu près pour prendre des questions dans le public, s'il y en a.
Oui, bonsoir. Une question qu'on pose souvent aux écrivains, c'est pourquoi vous écrivez aujourd'hui ?
Peut-être il m'arrive aussi de me poser moi-même cette question. J'ai jamais su répondre, mais j'ai jamais su répondre aux questions que je me posais à moi-même. Mais la raison la plus simple, c'est que on travaille. On rentre le soir chez soi, et si on n'écrit pas, qu'est-ce qu'on fait ? On paraisse, on... Bon. On regarde la télévision, on lit un livre, on va à la piscine ou à le gym. Bon, c'est combien de temps est-ce qu'on supporte ce genre de vie ? Si on a commencé à faire quelque chose comme ça, si on a pris cet entraînement, cette habitude, si on aime ça, si on trouve que c'est essentiel, et si on voit que d'autres gens le lisent, il est difficile de sauter du train en marche, et on continue. Et les histoires qui arrivent, bon, elles sont, il y a tellement de thèmes, il y a tellement de liens, il y a tellement de rêves. Tout cela demande à être mis en forme, et me demande de l'aide pour être mis en forme. Et si on est inspiré par quelque chose, il est plutôt difficile de ne pas écrire que d'écrire.
J'ai
peut-être deux raisons. La première, c'est que L'écriture, c'est une drogue, c'est un stupéfiant. C'est une porte ouverte qui nous permet de passer dans un autre monde. Et la deuxième raison, c'est que cela donne un sentiment d'identité.
Päris niisama oleks see oleks nagu suhteliselt kaosesse uppumine kui kui iseloom on ka veel kuidagi voolav laiali valgu
sauter dans le chaos un texte une histoire et l'écrire une histoire ça aide à rassembler tout ce chaos et à créer une identité
miski ma olen miski aga ma ei tea mis ma olen ja
see je sais pas ce que je suis et ça m'énerve ça m'irrite le troisième élément peut-être c'est que comme Indrek l'a dit c'est le plaisir du travail
et c'est de rhum on
ce plaisir du travail est absolument existant et cette tension et ce travail cette peine que l'on prend et après cela le repos.
Très, très brièvement, j'ai le sentiment de m'être... Pardon ? Non, excusez-moi. Non, j'ai le sentiment de m'être spécialisé très tôt, presque dès l'enfance. Spécialisé, je suis devenu une sorte de machine à écrire, si j'ose dire. Et une fois que cette spécialisation est acquise et qu'elle a chassé toutes les autres potentialités d'un individu, y obéir est non seulement vital... mais aussi la source d'un très grand plaisir. Donc je rejoins mes deux confrères estoniens, écrire, obéir à sa vocation, ou en tout cas ce qu'on est devenu, ce qu'on s'est forcé à être, est source d'un immense plaisir. Et je ne connais rien de plus agréable que d'être chez moi tout seul dans mon bureau, et puis de faire mes quelques pages ou mes quelques dizaines de lignes quotidiennes. C'est ça la vie finalement.
Alors, nous avons du temps peut-être pour une dernière question, appelant des réponses brèves, si possible. Alors sinon, il me reste à remercier le public et remercier nos trois écrivains qui sont venus nous rendre visite ce soir. Merci beaucoup.